Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission Sortez. Nous sommes le mardi 2 mars, et oui, nous sommes en mars, et on se retrouve pour une nouvelle émission pré-enregistrée. Vous en avez l'habitude cette semaine, 4 émissions pré-enregistrées, vendredi multicampus comme d'habitude, et pareil, une émission en rediffusion, c'est les vacances, mais on revient dès lundi avec du dès lundi prochain pour vous, avec du contenu inédit en direct, comme vous en avez l'habitude, voilà, c'est mieux comme ça, sur les antennes de Radio Campus Tours, sur le 99.5, et évidemment dans cette émission Sortez. Je vais vous détailler tout de même le programme du jour. Nous allons écouter L'Arzac des femmes face à l'armée. C'est une série que nous avons déjà écoutée il y a quelques jours sur Radio Campus Tours, il y a quelques semaines même. Si vous l'avez raté, c'est le moment de se replonger là-dedans. Et si vous ne l'avez même pas entendu, eh bien c'est le moment de découvrir cette très belle série de Radio Parleurs. Par la suite, nous écouterons Tout Fout le Camp. Vous avez entendu l'épisode 1 hier. L'épisode 1 avait pour titre On est tous... J'ai perdu le titre de l'épisode 1. C'était un très bel épisode. C'était On est toujours le jeune de quelqu'un. Voilà, l'épisode 2 s'appelle L'âge d'or. C'était mieux avant. Donc voilà, vous l'avez compris. Quelque chose qui parle des générations entre les jeunes de maintenant et les jeunes d'avant. Assez intéressant. Et c'est une série que vous allez retrouver toute la semaine car elle est composée de 4 épisodes. Arrêtons de discuter et rentrons directement dans le vif du sujet, car ce qui vous intéresse, c'est d'écouter du contenu. Et donc, on va écouter le premier épisode de L'Arzac des femmes face à l'armée. C'est donc une série en 3 épisodes sur la place et le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. L'épisode 1 s'appelle Vivre la lutte et vous l'entendez tout de suite sur Radio Campus Tours.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Je suis née à Millau en 1946. Mes parents étaient agriculteurs. Je m'appelle Christiane. Je m'appelais Christiane Coste et j'ai épousé Pierre Burguère en 1965. J'avais 19 ans. Et je suis venue sur le Larzac en 1965, qui est à 12 km de là où j'étais née, donc à 2 km du centre-ville de Millau.
Je m'appelle Elisabeth Bagnon. J'ai vécu la lutte. J'avais 30 ans, de 30 à mes 40 ans. Maintenant, je suis proche des 80 ans, comme beaucoup de mes voisins de l'époque.
On commence par la plus jeune.
Solles Aigle de Thor. J'habite à la Couvertoirade, sur le Larzac, et je suis donc la fille de...
Anne-Marie Le Thor, qui habite à Sauclières et qui est peintre.
Il y a 50 ans, en 1971, commençait une lutte historique en Aveyron, celle du Larzac contre l'extension du camp militaire du Plateau. ORTF, JT Nuit, 1972.
Le camp militaire du Larzac, c'est pour l'instant une zone de 3000 hectares qui s'étend à l'est de la route nationale 9 Montpellier-Millau, sur le domaine du village de la Cavalerie, dans l'Aveyron. Le projet d'extension porte sur 14 000 hectares, au nord, à l'est et au sud du camp actuel.
Dans les fermes, c'est d'abord la stupéfaction. Elle laisse rapidement place à une résistance acharnée. En mars 1972, le serment des 103 est signé par les paysans. Ils s'engagent à ne jamais quitter leurs terres et même contre de l'argent. Les prochaines années de lutte seront créatives. Brebis sous la tour Eiffel, grand rassemblement, renvoi de livrets militaires, occupation de terrain, construction d'une bergerie illégale. Et puis, il y aura aussi des moments moins faciles, avec des procès, des menaces, des coups de pression. Après 10 longues années d'espoir, désespoir parfois, de solidarité souvent et d'intensité, c'est la victoire. Avec l'élection de François Mitterrand, le projet est enfin abandonné. De cette période, il reste des figures emblématiques. Il y a José Bové, bien sûr, mais aussi Pierre Burguère, Raymond Laval, Léon Maillet. Peu de femmes. Qu'ont-elles à dire de ces 10 ans? Quel rôle avaient-elles si elles n'étaient pas en position de leaduse? Que faisaient-elles? L'Arzac, des femmes face à l'armée, épisode 1, Vivre la lutte, avec Christiane Burguière, Elisabeth Bayon, Solveig et Anne-Marie Le Thor.
Alors là, nous sommes sur le plateau, donc ce qu'on appelle l'est, un peu l'est du plateau. Il y a un panneau indicateur quand on quitte la route nationale qui indique qu'on va vers les fermes du Larzac nord-est. Donc la première, c'est Potensac. Avant, il y a là où j'habite, dans le Camper. Et donc pendant la lutte, nous sommes venus faire une action de femmes parce que les camions militaires passaient sur la route et souvent à l'heure où passaient nos enfants. Alors un jour, on a voulu essayer de les bloquer. Et donc, on était là, dans le virage. Et puis on s'est rendu compte que c'était dangereux parce qu'en fait, on ne les voyait pas arriver. Il fallait surveiller les deux côtés. Et donc, on a changé d'endroit et après, on les voyait arriver de plus loin. On se donnait la main, on était une quinzaine de femmes et ils sont arrivés comme des fous. On a dû lâcher nos mains pour s'écarter, sinon ils nous rentraient dedans, ils ne nous respectaient pas. On était toutes de tous les âges hein, et c'est là que je me souviens qu'ils ont pris le temps de prendre nos journaux, le Gardarem ou l'Arzac, et de les lire. Et il y en avait qui, ma foi, avaient l'air de trouver que c'était pas si mal, voilà. Mais ils gardaient pour eux leurs opinions, évidemment. Certains comprenaient notre lutte. Mais après, ils n'avaient aucun pouvoir, évidemment. Lui, c'était un lieu important. Enfin, dans le périmètre extension, c'était la route qui faisait limite. Les actions de femmes, je pense qu'on trouvait que ça pouvait être fort. Tous ceux qui touchaient à la vie de famille, aux enfants, on le mettait beaucoup en avant, la famille. Et la famille, elle est peut-être plus représentée par les femmes que par les hommes. Les hommes, l'homme est plutôt à l'extérieur, la femme est plus à l'intérieur. Enfin, à cette époque-là, hein, je parle. Il faut se replonger dans 40 ans en arrière. Tous les jours, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais tous les jours, il se passait des choses extraordinaires. Des fois, on avait la peur au ventre quand il y avait une action qui était prévue. Mais comme on était de plus en plus nombreux, c'était une sacrée force. Donc, et après l'action, on rigolait, quoi. On imaginait ce qui aurait pu se passer. On disait, tu as vu un tel et tout. Et voilà. Mais c'était sans violence. Et ça, c'est une chance qu'on a eue de découvrir la non-violence grâce à Lanza de Blasto. Je le dis, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais je pense que pour les vrais paysans, c'est comme ça que ça s'est passé.
21 février 1975. Nous sommes 3 ans avant ce blocage des camions militaires. Les femmes paysannes en lutte se sont concertées et elles ont décidé de mener une action ensemble. Une action sans les hommes. Midi approche. Elles se dirigent deux par deux vers les mairies des villages du plateau. Dans son appartement au cœur de Millau, Elisabeth Bayon se replonge dans ses souvenirs.
Ça va faire pas loin de 50 ans, donc je me souviens pas. Je me souviens pas. Je crois que si, enfin... C'est que les femmes étaient un peu vexées de ne pas avoir eu de livret militaire à renvoyer. Et donc, quand il y a eu l'enquête parcellaire, il y a eu dans une réunion l'idée d'envoyer les femmes par petit comité de 2 par mairie pour déchirer les papiers officiels.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter pour vous comment ça s'est passé ce jour-là ?
Bah, écoutez, là, il y avait les deux commissaires au plan, je ne sais pas très bien, enfin bon, ils me connaissaient puisque nous avions une maison prestigieuse, donc ils ont été très empressés auprès de moi, et donc j'ai un petit peu regardé, et puis tout d'un coup, je savais qu'à midi tapant, je leur ai dit, je ne suis pas venue consulter, peu que consulter, j'ai envie de les déchirer. Et donc je me suis précipité, ils se sont précipités sur moi, mais enfin bon. Je devais le faire avec une femme qui s'est dégonflée au dernier moment. Donc c'était encore plus quand même pénible de le faire toute seule.
Et vous aviez quel sentiment à ce moment-là ?
Ah, le sentiment, oui, de désobéir, de faire quelque chose quand même qui est défendu. Oui, oui.
À 40 minutes au sud de Millau, après avoir traversé le Larzac par la D999, nous voilà à Nantes. Nantes, c'est un petit village touristique l'été, traversé par la rivière La Dourbie. Près de la place du Bourg, des enfants courent dans un parc, des retraités jouent à la pétanque. Anne-Marie et Solveig Le Thor, mère et fille, se sont donné rendez-vous ici. Et pour la première fois, depuis de nombreuses années, elles se remémorent ensemble ces 10 ans de lutte.
J'habitais en Mayenne, à Laval, et j'avais une amie qui, en 69, s'en va. Je recherchais tracé. J'apprends qu'elle habite à la Couvertoirade.
J'ai 8 ans, maman a le coup de foudre pour la Couvertoirade. Moi, comme j'ai le coup de foudre pour ma mère, ben forcément, j'ai le coup de foudre pour le village aussi. Et donc, à 8 ans, je dis, plus tard, quand je serai grande, j'aurai une maison à la Couvertoirade.
Et ça, c'est extraordinaire. Hein. Je me souviens de ce souvenir, parce qu'elle avait un petit cheveu plus tard. Moi, quand je serai grande, j'aurai une maison à la Couvertoirade.
Et c'est vrai qu'on, du coup, on a traversé la lutte du Larzac de la Couvertoirade, qui était la partie la plus extrême de l'extension. Elle s'était menacée par l'extension, mais c'est vrai qu'on était dans le sud du projet d'extension. Donc c'est une relation particulière avec les paysans du Nord. Ce n'était pas les mêmes entre paysans du Sud, Raymond Laval par exemple, que vous allez peut-être rencontrer.
Calazel.
Les Calazel et puis ceux du Nord.
C'est pas, enfin, mes relations, tu veux dire, pas la même, mais quand même le Sud suivait, il y avait le Pérocelle.
Absolument, le Sud suivait.
On a
mais,
le Réunion.
Oui, oui, bien sûr, mais ça faisait plus loin à chaque fois ça d'y aller. C'était chaque fois plus problématique quand même. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est avec Christiane qu'on a été entraînés dans cette histoire-là.
Oui, avait, oui.
Toi et papa.
C'est ça, il y avait une quarantaine de kilomètres hein, pour faire aller aux réunions. Mais on s'est très vite intégré au groupe et investi, surtout.
Investi.
On s'est investi très vite. Moi particulièrement parce que étant pas graphiste mais peintre, bon, j'ai aidé à faire les banderoles, les affiches, tout ce qui était communication. Donc ça m'a mis un pied très vite par rapport aux personnes. Hein. On a tout de suite fréquenté Solveig. Ne avait de cesse de nous suivre partout. Toutes les marches, toutes les... Enfin, elle a tout fait.
Et je ne sais pas pourquoi j'ai tout fait, parce que vous m'y emmeniez ou parce que... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai tout vécu de l'intérieur en tant qu'enfant. Mais alors, est-ce que parce que je vous collais tout le temps ou parce que
Non,
je n'ai
pas l'impression ouais, qu'on te forçait à y aller. C'était
spontané. Ah non, ça me plaisait, moi.
C'était normal.
Ouais. Il est vrai aussi que les paysans du Larzac étaient très ouverts à ceux qui venaient de l'extérieur. À chaque fois, ils disaient un petit peu qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, quelles sont vos compétences. Et je pense que leur génie, c'était ça aussi, de savoir utiliser les compétences des uns et des autres et de pouvoir les mettre au service de la lutte. Et c'est vrai qu'ils ne refusaient personne, que l'on vienne de la ville, que l'on vienne des autres campagnes. Il n'y avait pas d'a priori. C'est après que la sélection se faisait, pour peu qu'on rentre dans la non-violence, il y avait quand même des critères, hein. C'est la non-violence et l'humour, tout ça,
oui.
Et qu'on apporte quelque chose, qu'on ne soit pas que dans la critique. Mais c'est vrai qu'ils étaient a priori toujours bienveillants et très accueillants.
Très accueillants.
Moi, c'est des souvenirs d'enfants, donc ce n'est forcément pas les vrais souvenirs objectifs. C'est des impressions, c'est des... Moi, ce qui m'a marqué le plus, enfant, c'est les grands rassemblements. C'est tous ces adultes, cette foule d'adultes, plutôt heureuses d'être là. Il fait chaud, je me souviens d'avoir très chaud, on a soif, on me met dans des buis pour me rafraîchir, il y a plein de gens qui offrent à boire, et il y a vraiment une gentillesse, quelque chose de... C'était nimbé d'humanité, ces luttes-là, parce que je me souviens pas d'avoir eu peur dans toute cette masse d'adultes, hein, quand même, c'est beaucoup de monde, et je vois vraiment des gens bienveillants et attentifs les uns aux autres. Et ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour défendre la terre, effectivement, pour défendre la vie. Donc on sent, là, il y a une vraie conscience politique, comme on pourrait dire aujourd'hui.
Oui. Alors, il y a ce que dit Solveig, bien sûr, et ce qui était aussi très, enfin, à la fois novateur et spécial aujourd'hui, Larzac, c'est qu'ils ont tout fait avec gravité, sérieux, mais humour. Et ça, c'est pas habituel dans les luttes. Hein, c'est toujours ou le point levé, ou les slogans. Et là, il y avait toujours cette pointe d'invention, d'imagination, d'humour, qui retournait la situation. L'ennemi n'attend... Enfin, l'ennemi, entre guillemets, oui, l'ennemi... Il n'est pas prêt à capter l'humour. Il prend la bagarre, mais il ne prend pas l'humour. Et là, c'était... Je me souviens...
Dans les slogans, c'était... faites la bourre, pas la guerre.
C'est fabuleux ce qui s'est passé.
Plein de choses comme ça qu'ils inventaient à chaque fois, qui faisaient qu'ils mettaient tout le monde de leur côté, puisqu'il y avait les rieurs de leur côté, il y avait...
C'était populaire.
C'était populaire, voilà.
Je ne connais pas de rassemblement sans qu'on ait mangé ensemble. Chacun a apporté son pique-nique, qui, même encore maintenant, là, c'est...
Il y a toujours un partage. Partage des idées, partage des actions et puis le partage du repas. Et c'est vrai que si pendant le partage des idées il y a eu un peu de friction au moment du partage des repas, ça permet de calmer un peu, de s'expliquer entre soi pourquoi à ce moment-là j'ai un peu haussé le ton parce que tu comprends ceci, cela. Donc il y a toutes les coulisses aussi qui sont très importantes de cette lutte pour comprendre comment ils ont pu tenir 10 ans, c'est pas rien 10 ans. Hein.
Avec des caractériels. Hein,
avec des caractères forts.
Il faut du caractère pour vivre ici.
Et c'est ce qui moi, enfant, me choquait, c'était ces réunions où il y avait des voix très fortes. Et après, je retrouvais les mêmes autour d'un verre. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'ils ne s'opposaient pas en personne, mais aux idées. C'était les idées qui n'étaient pas les mêmes, mais pas les personnes.
On se dit, bien sûr, la Terre est grande, bien sûr, il y a de la place. Mais on va partir pour faire la place à quoi et à qui? On va partir pour faire la place à l'armée. On va laisser nos terres pour entraîner des gens. Pour quoi faire? Pour aller tabasser les ouvriers et les étudiants dans les villes?
Au fil des années, la lutte évolue. Ce n'est plus seulement une lutte contre l'extension d'un camp, mais aussi une lutte contre l'impérialisme, l'armée et tout ce qu'elle peut représenter. À partir de 1972, des paysans commencent à renvoyer leurs papiers militaires. Ils seront suivis par plus de 3000 citoyens au cours de ces 10 ans. Les femmes, elles, n'ont jamais eu de papiers à renvoyer. Alors elles ont trouvé un autre moyen pour exprimer leur opposition.
Ben, nos maris renvoyaient le livret militaire et alors on disait au ministère où nos maris ont envoyé le livret militaire, on a joint une lettre en disant qu'on ne faisait pas le livret militaire, mais que pour nous la terre c'était la vie, et on expliquait chacune, je ne sais pas, hein, moi, je sais que j'ai parlé de ça, de la vie, et qu'on... C'était important pour nous de garder nos terres et que ce geste de renvoi de livret militaire, c'était un acte composé. On savait que c'était illégal, mais on ne voulait pas partir de quitter nos terres. Je ne sais pas exactement ce que j'ai écrit, mais c'était important pour moi de le faire. Il y en a eu plusieurs qui l'ont fait. Peut-être pas tout le monde, parce que 60 paysans ont renvoyé leur livret militaire d'un coup, puis il y en a eu d'autres qui l'ont fait après. Il y en a eu dans toute la France avec des procès. Et chaque procès, il y avait des renvoyeurs de livret qui se rajoutaient. C'était toujours en boucle, quoi. Et on était plusieurs à être d'accord pour envoyer cette lettre, en disant que c'était pas seulement des hommes, mais qu'il y avait aussi, dans ce projet d'extension du camp, il y avait aussi des femmes et des enfants.
Eh bien, des livrets militaires firent demi-tour au ministère. Le Larzac est terre de paix, non-violence est l'arme de guerre. Des Indiens et des Irlandais sont venus pour nous rencontrer. On ne parle pas la même langue, mais on parle le même combat. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie.
Je pense qu'il faut avoir la foi chevillée au corps, hein, pour tenir.
Oui, oui, je sais pas, c'est magique.
Oui, c'est passé quelque chose de magique.
C'est magique.
Je pense qu'aujourd'hui, ce serait différent.
Ce serait différent.
Ce serait compliqué aujourd'hui.
La violence est plus forte du côté de
l'État,
de la répression.
Ouais. Tu as raison, à l'époque, ils n'étaient pas en Robocop. Et on pouvait, bon, ils avaient des casques, ils avaient tout
oui,
ça, mais
oui,
on pouvait, on avait des regards, on croisait des regards. Aujourd'hui, les CRS, on ne les voit plus, quoi. Ils sont complètement, c'est des tortues ninja, là, et on sent... Ouais, les temps ont changé, vraiment. Donc à chaque fois, il y a une intelligence qui fait que soit on utilise la loi, soit on utilise les médias, soit on utilise aussi son corps, parce qu'il y a quand même eu des grèves de la faim, hein, qui ont été...
Oui,
et ça,
oui,
c'est au péril du corps, parce que là, on se met en danger quand on fait une grève de la faim. Donc il y a toujours une force de frappe, j'ai envie de dire, même si elle est non-violente, qui permet de remporter le morceau. Même si la violence en face est de plus en plus forte et de plus en plus inquiétante.
Je pense qu'il y a ils font preuve, enfin, ils font d'une certaine intelligence de la lutte. Il y a une forme d'intelligence, finalement, qui est mise en action. Voilà, c'est pas que de la théorie, c'est pas que des paroles qu'on peut lire dans tous ceux qui nous ont aidés sur le plan philosophique, sur le plan réflexion. Il y a une mise en acte de ces paroles. Et ça, c'est fort aussi.
Sur ce plateau d'environ 1000 km², il y a celles et ceux qui sont arrivés dans la lutte par choix politique. Puis d'autres y ont été propulsés un peu par hasard, parce qu'ils ou elles vivaient ici, sont nés ici et aimaient le territoire.
Bah, certains disent que ça ressemble à la Lune. Bon, bah, c'est surtout très minéral. C'est ponctué de buis, hélas, atteint en ce moment par cette bestiole, et de genévriers, et puis il y a beaucoup de cailloux. C'est une terre légère, il n'y a pas de grands arbres, et c'est une terre pauvre. Seules les brebis peuvent brouter, parce que même les vaches, il y en a quelques-unes, mais c'est pas une terre à vaches. Moi, je fais partie des gens qui cherchaient un coin tranquille et sans histoire, et qui, dans l'année 70, a eu le coup de foudre pour le Larzac. Voilà. Et donc, on achète en 70 une ferme fortifiée magnifique. 6 mois après cet achat, en 60, presque 71, quelqu'un téléphone pour dire « Vous savez, votre belle forteresse, elle va être dans un camp militaire ». Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce coquin qui m'annonce ça, je m'en souviendrai toujours, un dimanche matin. On est dans, comme nos voisins, dans une inquiétude épouvantable. Comme moi, j'emploie une technique de broderie à la machine, je faisais les brassards inimitables pour les militants, pour la bouffe, hein. Voilà, j'avais le choix. Soit je rentrais dans un rôle traditionnel, c'est-à-dire d'accueil. C'est pas le repos du guerrier, mais le repos du militant, c'est-à-dire de faire des pizzas, des quiches, parce qu'il fallait faire manger tout un tas de gens qui venaient pour nous aider. Hein. Il y avait tout un travail quotidien qui n'était pas négligeable. Soit je me mettais dans ce rôle traditionnel, quelque chose qui m'agaçait un peu au début, soit je m'excluais, et puis avec les hommes, j'ai préféré rester solidaire des femmes et de rester dans un rôle qui m'emballait pas totalement, mais enfin, qui était celui traditionnel.
J'étais pas quelqu'un de féministe. Par contre, les féministes sont arrivées d'ailleurs. On était des fois un peu, pas en conflit, mais on comprenait pas ce qu'elles voulaient, parce que nous, on mettait toujours en avant que c'est une lutte de famille, de couple, de famille. Mais elle nous disait des choses du genre, mais votre mari, là, je vais filmer, par exemple, si c'était une journaliste, je vais filmer, vous avez qu'à faire monter sur le toit, changer des tuiles, et votre mari faire la vaisselle. Et c'est ma sœur qui a eu ce... Elle a dit, mais pourquoi, n'importe quoi, je fais jamais ça, pourquoi j'irai monter sur le toit, hein. Moi, d'ailleurs, j'y monterai pas, j'ai le vertige. C'est une autre époque, peut-être aujourd'hui, je réagirais pas pareil. Mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais heureuse, ça me suffisait. Et voilà, et la place des femmes, on ne peut pas dire qu'elle y était, mais on faisait, en tout cas ma sœur et moi, à la ferme de l'hôpital, on faisait énormément d'accueil parce que la ferme était géographiquement située sur le bord de la route, de la nationale, et on avait énormément de visites, de cars, mais au fur et à mesure. Mais au tout début de la lutte, on faisait même les réunions dans nos maisons. Donc, on avait les enfants petits et tout ça, c'était pas toujours évident parce qu'il y avait du bruit, évidemment, et surtout de la fumée. Les gens fumaient dans les maisons à ce moment-là. Et quand on allait se coucher, on avait la chambre pleine, parce que les gens posaient leur veste l'hiver. Et... Enfin, voilà, c'est des souvenirs comme ça. Mais au début, on me disait, moi j'allais aux réunions le plus possible. Mais enfin, comme les enfants étaient petits, que les réunions étaient le soir à la veillée, il fallait souvent les garder, mais avec ma sœur, on se remplaçait. Et donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient aussi chez nous dans la journée. Des journalistes, des avocats, des militants qui venaient de partout. Donc, on les accueillait. Et moi, je servais le café. Enfin, même les journalistes ne parlaient qu'à mon mari. C'est-à-dire qu'on attendait qu'on nous questionne. Et souvent, les journalistes demandaient aux hommes. Nous, on comptait pas. On était un peu à l'écart. On était dans les casseroles. Voilà.
Archives, Christiane Burguière, 1979. Dans le film Paysanne.
Quand il s'agissait de porter mon témoignage sur ce qu'était la lutte, ma lutte à moi, je me sentais toujours à l'écart. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient surtout au début que la lutte du Larzac c'était une lutte d'hommes. Mais en fait les femmes on était quand même bien derrière, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le service militaire et qu'au départ on s'est senti moins concernés que nos maris. Mais en fait, on était quand même là, présente, et on faisait tout ce qu'on pouvait, mais enfin, moi, personnellement, ça a été très dur, le départ. C'est beaucoup moins dur maintenant.
Un jour, j'ai dit à Pierre, écoute, moi, je suis toujours reléguée à la cuisine à préparer des repas. J'entends même pas ce qui se dit à côté. Pourquoi on ne tomberait pas la cloison? Et donc, on l'a tombé, et c'était extraordinaire, parce qu'il y en avait qui nous ont traités de fous. Ils nous ont dit, mais tu auras la fumée dans toute la maison, on va te voir quand tu cuisines. Mais ça m'était égal, je trouvais que c'était une pièce commune. Et puis, je crois que ça se faisait aussi dans d'autres endroits. Donc, nous, on a été enchantés de ça. Alors, les carrelages n'étaient pas les mêmes dans la cuisine, dans le séjour, mais ce n'était pas un problème. Il y avait une grande ouverture, et après, je pouvais assister. Et donc, je m'imprégnais de la lutte. À ma mesure, évidemment. Ça m'a enlevé dans ce rôle de vraiment d'être la femme au foyer. J'y étais bien quand j'étais en famille, mais devant les journalistes, il arrive un moment où on se dit, mais j'existe, je peux aussi écouter et donner mon avis, qui n'est pas forcément le même que celui de mon mari.
Refusons de payer l'impôt, il s'en ira à l'armement. Et
reversons les 3% pour financer ce bâtiment. Le Larzac restera, notre terre servira.
Radio Parleur, c'est...
des reportages au cœur de l'actu des luttes.
Des émissions et entretiens.
Fatima Wassak.
Pour penser les luttes.
Merci d'être avec nous sur Radio Parleur.
Bonjour.
L'hebdo Parleur.
L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
Votre édito satirico-bordélique.
Inventé.
Bagaille.
En fait, de l'enfer.
De la création sonore plein les oreilles.
Pour aller
partout,
tout le temps. Nous avons besoin de toi.
Toi.
De toi. Et toi aussi.
Alors faites un don.
Sur radioparleur.net/don.
On vient d'écouter Larzac des fans face à l'armée sur Radio Campus Tour sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Un reportage donc de Radio Parleur. Merci à eux de créer de si beaux contenus et tout de suite on arrive pour une nouvelle pause musicale dans cette émission sortée. Tout de suite on va écouter Like This de Wax Taylor et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Like This, Wax Taylor sur Radio Campus Tour. J'espère que cette pause musicale vous a plu. Toujours sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Pour la suite de cette émission, vous le savez, pré-enregistrée. Une émission pré-enregistrée. Vous venez d'écouter juste avant Larzac des femmes face à l'armée. Et tout de suite, on arrive dans la deuxième partie de cette émission avec Tout Fout le Camp, L'âge d'or, c'était mieux avant. C'est le deuxième épisode de cette série Tout fout le camp que vous avez déjà pu commencer à entendre hier. C'est un documentaire de Manon Préjean. Pardon, et donc là, pour vous lire un petit peu ce dont on parle dans cette émission, et puis dans ce reportage surtout, c'est pourquoi associe-t-on toujours la jeunesse à la prétendue détérioration de la langue ? Comment est-on passé de l'expression « parler jeune » à « parler de banlieue » ? Quelle dette ce langage doit-il à la parole populaire ? C'est donc ce genre de questions qui se sont posées aujourd'hui les personnes qui réalisent ce reportage, et je vous propose de l'écouter tout de suite sur Radio Campus Tours.
Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. J'habite en face d'une école. Je dois dire que la sortie, même un peu bruyante, de ces enfants, loin de m'agacer, me fait au contraire plaisir. Leur gaieté me remonte et leur optimisme doit être contagieux. Toutefois, voyez-vous, je ne suis pas content de leur langage.
L'Institut National de l'Audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter... Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Préjean.
Bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
La façon dont ils parlent, ils ont une prestance.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler ?
Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant ? Qu'y a-t-il derrière cet avant ? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans ? Épisode 2. L'âge d'or, c'était mieux avant. Il y a comme une fâcheuse tendance à comparer le langage des jeunes d'aujourd'hui avec celui des jeunes d'hier. Quand on écoute Jean-Pierre Léo lors d'un fameux casting à 14 ans ou des interviews pendant mai 68 de jeunes étudiants, on se dit « tout fout le camp ». Mais pourquoi le langage des jeunes nous préoccupe-t-il autant ?
Il y a vraiment trop de laisser-aller et je m'étonne qu'il ne soit pas un peu repris lorsqu'il parle de cette façon. Je suis été puni. Je serre mes livres. Maman va me fâcher.
Dans l'intérêt que... Alors, les linguistes, les sociolinguistes, les étudiants portent au langage des jeunes, il y a un double aspect. Moi, j'ai essayé d'analyser ça sous l'angle de rejet, fascination.
Le nez me saigne. Le cœur me bat.
Il y a à la fois une espèce de fascination pour la créativité, pour la nouveauté, pour l'inventivité, qui sont des aspects plutôt positifs.
C'est nous qu'on a gagné.
Et puis, y a aussi une espèce de rejet de l'anticonformisme, du fait que...
J'y ai dit.
Comme vous le suggériez tout à l'heure, c'était mieux avant, c'est-à-dire que...
La maison à mon père.
Même nous, quand on était jeunes, on ne parlait pas comme ça. En gros, génération après génération, se reproduit ce truc-là, avec une manière de vivre, en fait, le changement, qu'il soit linguistique ou social, plus large... comme un éloignement d'un âge d'or, en quelque sorte. Voilà. D'un moment où la langue était à un état plus parfait.
Cyril Trimaille est sociolinguiste. Il s'intéresse au langage des jeunes depuis la fin des années 90. Pour y voir plus clair, retournons en arrière. À quoi ressemble cet âge d'or dont il parle ?
On a un certain nombre d'associations en mémoire, en stock, en quelque sorte, que notre cerveau va activer assez naturellement et souvent sans que ça passe à un niveau conscient.
J'ai eu une impression absolument merveilleuse de fraîcheur, de jeunesse, de sincérité, de vérité. Et vraiment, ces jeunes filles sont des vrais rayons de soleil.
C'est une caractéristique de toutes les langues que d'évoluer, de changer, notamment au niveau de la musique, de la mélodie. Vous parliez de la mélodie des langues.
Il y a des surprises parties qui sont diablement plus intéressantes.
Qu'on appelle la prosodie, c'est tous ces aspects mélodiques de rythme, de débit, de volume, de hauteur, etc. Je pense qu'on a une espèce de mémoire de ce qu'on a pu voir dans les films, dans certains reportages télévisés, justement dans des images d'archives, où on va associer, je sais pas, ne serait-ce que tel type de prosodie et du noir et blanc, par exemple.
Les deux héros ont bien voulu permettre aux disques Odéon d'enregistrer une conversation familière, pleine de souvenirs, évoquant les efforts surhumains qu'ils durent fournir, les périls qu'ils affrontèrent et l'indicible joie d'un retour glorieux parmi les leurs sur la douce terre de France.
Si on compare la radio des années 40-50 avec la radio de maintenant...
Maria Candéa, sociolinguiste.
C'est que dans les années 40-50, effectivement, les journalistes privilégiaient l'intelligibilité. Mais ça, c'était une stratégie professionnelle. Parce que comme la parole était transmise de façon un petit peu dégradée, il fallait aussi laisser plus de temps au cerveau qui entendait de décoder l'information.
Difficulté due en grande partie à la dispersion, à la précarité de nos installations et à l'insuffisance de nos moyens techniques. Et
je pense que c'était vraiment très lié au style oratoire, qui avait aussi sa propre histoire, qui en fait était l'héritage du style oratoire sans micro. Il faut quand même se souvenir que les gens avaient comme modèle des personnes qui s'adressaient à la foule sans micro. Et ça, ça a disparu. Parce que maintenant, on a confiance dans la qualité du matériel et on a l'impression de pouvoir parler vraiment normalement, même si on est devant un micro. Donc, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les gens parlaient avec ces allongements fleuris.
Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot.
C'est vrai qu'à une époque, quand j'allais dans les colloques et les conférences, on me posait souvent la même question sur la manière dont les acteurs, et particulièrement les actrices, prononçaient leurs textes.
Michael Avecassis, linguiste.
Elles avaient une tonalité que les gens qualifiaient d'hystérique.
Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne question. Tiens, pourquoi il parle comme ça
En fait, ça tient à la manière dont on filmait à cette époque et dont on captait le son. On mettait les micros au plafond, ce qui forçait les acteurs et les actrices à porter la voix. Donc c'est pour ça qu'on a des actrices, je ne dirais pas qu'elles hurlaient, mais elles ont une voix très haut perchée.
Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Un film des années 30 et 40, effectivement, on a une transposition de la diction théâtrale au cinéma. Alors c'est vrai que c'était un gage d'excellence de savoir articuler à cette époque-là.
Il avait vraiment écrit les notes, vous comprenez? Je n'avais qu'à les chanter, si
vraiment,
vous voulez.
Vraiment, même oui. Le mot atmosphère, oui, il l'avait écrit
oui,
tel que vous l'avez
naturellement,
prononcé.
Il savait comment.
Souvent, quand on entend dans des entretiens des personnes comme Arletty, leur accent est beaucoup plus neutre. C'est-à-dire que ces acteurs, ces actrices ont tendance à surjouer au cinéma. On a d'une certaine manière des concentrés de traits linguistiques que l'on entend, que l'on a entendus. Mais il s'agit d'une langue que je qualifierais de fabriquée.
Ils sont forts parce qu'ils nous ont fait penser ça. Hein. Moi, j'ai pensé qu'ils parlaient comme ça. Hein.
On a quand même dans l'oreille des micro-trottoirs qui peuvent nous donner des éléments de comparaison assez fiables, comme on peut les entendre dans le film Jean Rouch.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux?
Avec Edgar Morin, ils entreprennent d'aller interviewer des jeunes, notamment dans la rue, pour leur demander qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est qu'être heureux.
S'il vous plaît, oui, monsieur, êtes-vous heureux?
N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal.
Je pense que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui.
Non. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans.
Vous avez 60 ans?
Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil.
Ça dépend.
Ça dépend de quoi?
Ça dépend sur le quoi. Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier.
Alors c'est tout l'enjeu, justement, là, de ce film, que d'essayer de porter à l'écran une réalité avec tout le questionnement. Est-ce qu'on surjoue? Comment transposer le réel au micro ou à l'écran? La question n'est pas résolue. Eux font plutôt le constat d'un échec.
Dans le cinéma des années 30, le monde reposait sur une séparation nette entre classe populaire et classe aisée. Tout était à sa place, chacun parlait le langage de sa classe. En discutant avec Michaela Bécassis et avec Philippe Boula de Mareuil, le phonolinguiste que vous venez d'entendre, je réalise qu'au cinéma, à partir des années 2000, l'argot, le verlan, sont utilisés par toutes les couches sociales. Le cinéma vient alors refléter et alimenter une crainte, celle que le langage des jeunes met en péril le bon français.
Cramponnez-vous, tout fout le camp.
Comment tu vis? Raconte-moi un peu une journée, par exemple.
Ah, une journée, un peu tard. On va voir les copains au café, on discute, tout ça. Puis on traîne, tout ça. On fait les rues, tout ça. On se balade, quoi.
Comment tu te procures de l'argent?
En volant, premièrement. Alors, quand on vole, dans les grands magasins, on essaie de tirer du matériel, des magnétos, tout ce qui peut se revendre, quoi, des caméras, des habits potables, quoi, des trunches, des jeans, tout ça, pour pouvoir les revendre, quoi, pour pouvoir se procurer de l'argent.
Tu t'es fait piquer plusieurs fois?
Pour vol? Ouais, plusieurs fois, ouais.
Tu as passé combien de temps en prison?
Voilà, j'ai passé 2 mois et demi pour vol.
Qu'est-ce que t'avais fait?
J'avais volé une chaîne stéréo. Alors, j'ai voulu la tirer et puis je me suis fait crever comme un con, quoi. Les inspecteurs, dans la nuit, m'ont attrapé, quoi.
Tu peux pas essayer de travailler?
Si, je travaille. Quand je vois que je peux plus voler, je travaille.
Donc là, c'est une archive des années 70. Est-ce qu'on peut dire que le langage des jeunes est le prolongement de la gouaille populaire?
Alors, il y a certains traits, notamment phonétiques, hein, qui semblent avoir survécu ou voire même s'être développés. Hein. Je pense à un des traits sur lesquels on travaille avec Maria Candéa, justement, qui est la palatalisation ou l'affrication, c'est-à-dire les prononciations de certaines consonnes de façon un peu mouillée. Par exemple, le « te » qui va être prononcé « tche » ou « tche », le « que » qui va être prononcé « que ».
Je trouve que ça ressemble... Ça ressemble à notre langage, enfin à notre accent de banlieue d'aujourd'hui aussi. Je trouve que ça n'a pas beaucoup changé.
Et ça me surprend un peu, car ça veut dire que finalement, tous les jeunes ne s'exprimaient pas dans un langage aussi développé, en fait. Donc finalement, ça veut peut-être bien dire que ma génération n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on le pense, finalement.
Alors, je ne sais pas dans quel état c'était dans les années 50-60, mais dans les années 70, typiquement, c'est utilisé... Alors, je pense à Coluche, par exemple, qui me semble incarner une forme de gouaille parisienne.
Moi, j'ai adopté le langage de la rue. j'ai piqué le langage dans la rue qui me l'a rendu, quoi, en disant que c'était de moi. Et puis, en fait, c'est d'eux, quoi.
Mais typiquement, ça, c'est des choses qu'on trouve chez lui, à la fois dans ses paroles ordinaires et ses mises en scène.
Mais c'est vrai que le langage populaire est plus important que tout le reste, parce que c'est un moyen de communication. Moi, je crois même qu'on pourrait complètement écrire en phonétique. Complètement, quoi, je veux dire.
Après, il y a des formes argotiques qui ont été... Alors, on pourrait dire remise au goût du jour par des jeunes, comme daron, comme tricard, qui sont des formes très anciennes au niveau lexical. Alors, je sais pas si, à nouveau, on peut mettre ça du côté de la gouaille, mais ça me fait semble faire partir d'un, on va dire, d'un vieux fond d'argot parisien, notamment. Dans les recherches que j'ai faites dans les journaux type magazine, hebdo et tout ça.
Au cours de la première heure de questions pour un samedi, nous vous avons parlé de l'argot, du langage de la rue et de celui de la radio. Nous abordons maintenant un langage un peu particulier, le langage des jeunes. Et oui, les jeunes ont eux aussi leur propre langage.
Il y a l'irruption du verlan à la fin des années 70, début des années 80, puis son développement à la fin des années 80 qui est déjà là, enfin qui est déjà diffusé par les médias.
Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le verlan, comment tu dirais en verlan? On est en train de faire une émission pour France Culture.
Le principe du verlan, c'est que il y a des mots comme émission, tu ne veux pas dire en verlan. Ça n'existe pas. Parce que les gens qui parlent verlan, ils parlent leur langage en verlan. Et dans leur langage, émission, ça n'intervient jamais.
Ce qui se passe Avant, j'ai en tête Renaud et ses vieux albums, hein, donc des fins des années 70, où on a quand même parlé qui me semble être une espèce de lien justement entre la gouaille parisienne et une forme de déjà de parler des banlieues, puisqu'en fait Renaud c'est déjà la banlieue. Hein, donc,
Et en plus, émission, ça fait si on y est, tu vois, c'est encore moins beau en verlan qu'en français. En verlan, on dit les mots qu'on aime et qu'on emploie tout le temps, tu vois. Je veux dire, c'est zesgon, gonzesse, c'est purfly, flipper, c'est une meuf, un flic, c'est tu vois, c'est pas le langage de tout le monde, le verlan, tu vois. C'est pour ça que c'est...
La première fois que t'as mis du verlan dans tes chansons, c'est Laisse béton.
Ouais.
Ce qui veut dire laisse tomber.
Laisse tomber.
Alors la mode, en fait, la mode en linguistique... se diffuse par les mêmes mécanismes que toute mode sociale dans tout autre domaine de la vie en société, en fait. La langue n'existe pas quelque part, c'est une pratique sociale. Donc en fait, ça se diffuse toujours de la même manière. On va imiter son entourage proche et on va imiter des gens qu'on aime bien et des personnalités. Donc il y a des leaders. Et en fait, on a tendance à imiter les gens de son entourage et on modifie ses pratiques si tout d'un coup, il y a une personnalité qui nous plaît, qu'on apprécie et qu'on a envie d'imiter.
Ah bah vraiment, j'ai beaucoup de choses intéressantes. Bon, en fait, c'est vrai, la manière de s'exprimer, c'est tout un art un peu. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de manières de s'exprimer. Et en soi, c'est cette manière-là qui va donner une image par rapport à quelqu'un. Ça, c'est vrai ce qu'elle dit. La manière de parler, de la gestuelle, il y a beaucoup de facteurs dans la communication, qui font qu'en fait, tu donnes l'image que tu veux donner à travers ta parole.
Et les leaders, ça dépend des époques, mais c'est les mêmes qui font les modes pour la musique, pour le vocabulaire, pour les coiffures. C'est un peu les mêmes, c'est-à-dire que les modes vont être clivés socialement, et par âge aussi, et parfois même par genre. C'est très complexe, et c'est pas linéaire du tout.
On a sorti des t-shirts qui s'appellent Fuck RATP, tu vois. Je veux dire, c'est pour bien leur montrer que, quoi, tu vois. Je veux dire, pour nous, on pense que la Terre est à tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, on se fout des institutions, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je suis chez moi, j'écris sur le mur, t'as vu, il y a des... Je veux dire, tu pourras le dire, chez moi, il y a des trucs écrits sur les murs, tu vois. Et des fois, il y en a, ils me disent, j'écrive, ils me disent, et chez vous, vous faites pas ça? Bah, je leur réponds, bah si.
Bah, on sait que l'innovation linguistique, notamment lexicale, mais aussi phonétique, elle est souvent le fait des jeunes de milieu populaire. Tout à l'heure, moi, j'employais le couple rejet-fascination. Dans la fascination, il y a une forme de jeunisme qui fait que quand on vieillit, on a envie de rester un peu jeune. Et une des façons de le faire, c'est notamment le langage. Voilà. Un phénomène qui a été montré depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le changement d'en dessous, au sens de changement inconscient, où on va avoir une adoption de traits linguistiques qui, le plus souvent, viennent des classes populaires, des milieux moins favorisés, on va dire, qui vont être adoptés par les classes moyennes, quoi. Peut-être on peut prendre un exemple autre que celui du langage, mais il y a une cinquantaine d'années, être tatoué, c'était revendiquer ou être rangé dans un statut de marginal de la société. Ben, vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu le tatouage. Je pense qu'on peut assez facilement faire le parallèle avec des formes linguistiques plus ou moins marginales, mais en tout cas qui n'appartiennent pas à des groupes sociaux qui bénéficient d'une grande légitimité, voilà. Pour le dire pudiquement, et puis le fait qu'on va emprunter en quelque sorte certaines valeurs qu'on associe à ces groupes sociaux, comme, typiquement pour les jeunes garçons, la virilité, elle est associée au langage populaire. Voilà. Donc, de la même manière, peut-être que l'argot l'était il y a, l'argot des blousons noirs, etc. L'été, il y a 50-60 ans.
Ah, c'est honte, ça, ce truc. T'as vu un peu
bien dans la legue,
c'est bien lesbain, hein, hein. T'as vu, boule T'es ma plus et si sont 5 hommes, t'es ma soeur, pour ta rhum.
Ou l'argot, il est comme ça, il est dans notre tête, il est dans la rue, il est dans les murs, il est sur la gueule des flics, il est...
Il est là où on est malheureux, toi.
Depuis les années 90, si on situe un changement là, à défaut de phénomènes nouveaux observables, il y a une expression qui a fait florès depuis, c'est celle d'accent de banlieue, de jeunes de banlieue, avec tout un imaginaire qui, comme la banlieue elle-même, sous-entend la banlieue populaire. Donc ça, c'est intéressant de voir que des expressions comme « parler jeune » a cédé le pas à d'autres comme « parler de banlieue ».
Quand on dit « rendez-vous », un jeune, il peut dire à un autre « on se capte ». Vas-y, on se capte. Sémantiquement, ça veut rien dire « on se capte ». D'accord ? Mais lui, en fonction des éléments qu'il a et que l'autre, son interlocuteur, il a, ils savent qu'ils vont se capter dans tel endroit, à tel moment. Je te donne un exemple. Il y a un jeune qui rentre dans un magasin, il y a un jeune qui travaille, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Bonjour, ouais, ça va ? Ouais. Vas-y, tranquille. Ouais, vas-y, passe. Ouais, vas-y, passe. Quand t'entends la conversation, t'entends 3 fois ou 4 fois le mot passe. Mais tu sais pas, il va passer quand ? Et tu sais pas, il va passer où ? Mais eux, entre eux, ils savent. C'est ce que je veux dire. Donc, les jeunes, ils sont organisés, il y a des relations super tacites. Il y a des contrats tacites entre tout le monde.
Mais voilà, en fait, cette expression « parler jeune », elle est piégée. Si on enlève les couches d'euphémisme et de non-dit, et de politiquement correct, c'est parler des jeunes arabes de banlieue. Je caricature un tout petit peu. Il y a effectivement, personne ne contestera qu'il y a des inégalités sociales et des ségrégations spatiales très fortes. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est un constat complètement établi. Et que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher les causes de la fracture sociale et qui débouche effectivement sur des questions linguistiques, de problèmes d'appropriation du français, des problèmes de réussite scolaire liés à l'absence de perspective sociale, en quelque sorte, professionnelle, sociale.
Par rapport à l'accent dit de banlieue, il est quasiment entendu dans la société que c'est un handicap. Cette gouaille des titis parisiens qui a été portée à l'écran, mise en scène par des acteurs et chanteuses célèbres des années 30-40, qui aujourd'hui sont auréolés d'un certain prestige avec la nostalgie, la patine de l'histoire et des films célèbres quand même qui l'ont véhiculé. Arletty est maintenant encensée comme une grande actrice. Si on se rapporte au discours des bourgeois de l'époque, je pense qu'on aurait pu entendre tout à fait autre chose.
En effet, par conséquent, nous pourrions conclure en disant qu'il y a une mythologie française.
Il y a une mythologie française et ces vieilles vérités, ces vieux mythes font corps avec notre imagination.
Le langage des jeunes existe en premier lieu dans l'esprit de ceux qui ne le sont plus, jeunes. Ça nous touche aussi, car c'est de notre propre jeunesse que nous nous sentons nous éloigner.
C'est un peu le propre de tout un chacun d'être nostalgique de l'époque de ses 20 ans. Et
quand l'homme surchargé de jour cherche dans les endroits où il a vécu jadis le parfum évanoui de sa jeunesse.
Il est vrai qu'il y a quelque chose de jubilatoire en fait. Lorsqu'on entend des choses ou des chansons que l'on connaît et qui ont bercé notre enfance.
Moment d'étrange lucidité, en effet, que celui où les souvenirs, brouillés jusque-là dans l'activité quotidienne, se dégagent et reparaissent un à un.
Ça nous suggère d'autres moments, une époque, mais aussi une sensation. Et c'est la propriété d'une chanson ou d'un film de nous rappeler des émotions.
Dans l'épisode suivant, comme un remède à cette nostalgie, demandons à des jeunes d'aujourd'hui de nous expliquer comment ils s'expriment et quels sont les mots nouveaux. Le langage des jeunes s'imprime de l'air du temps. Pour savoir ce qu'ils racontent de notre époque, c'est à suivre
sur arteradio.com.
De retour dans votre émission Sortez toujours sur Radio Campus Tours. C'était Tout fout le camp, épisode 2, L'âge d'or, c'était mieux avant. J'espère que ça vous a plu. L'épisode précédent était à écouter hier, le suivant sera écouté demain, c'est composé de 4 épisodes. Si vous voulez le réécouter, je vous donne rendez-vous et je vous incite à aller sur le site de Arte Radio, il y a de très beaux contenus et profitez-en, allez découvrir ce très beau site internet. En ce qui nous concerne, sur Radio Campus Tours, on va faire une pause musicale. On va écouter le titre Amami avec Ivory. On écoute ça tout de suite. Amami Ivory sur Radio Campus Tour, de retour pour la fin de cette émission Sortez, une émission où vous avez pu entendre le premier épisode de L'Arzac des femmes face à l'armée, qui s'appelait donc Vivre la lutte, l'épisode 1, ainsi que le deuxième épisode de Tout fout le camp, l'âge d'or de C'était mieux avant. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Très bientôt, c'est dès demain. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de Radio Campus Tour sur le 99.5 FM. À bientôt.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.